Mesdames, si vous voulez juste lever la main, on a des visiteurs là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas osé tout à l'heure signifier leur présence? Pardon? Y a-t-il des nouveaux mariés? Tu vrai, ils sont où? Oh, salut! Hey, levez-vous. Come on! Debout! Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on oublie, là? Vous voyez, c'est simple. On fait sans famille, il n'y a rien de gênant. J'aimerais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens au chapitre 8. On va lire deux passages ce matin. Mon épouse va lire 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 6. Alors, si on a des visiteurs qui n'ont pas de Bible avec vous, n'avez pas une Bible avec vous, juste levez la main. Les placeurs vont se faire un plaisir de vous apporter une Bible tournée dans 2 Corinthiens chapitre 8. Et ensuite, je vais lire chapitre 9, les versets 1 à 15. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible? Ça va? 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 6 et ensuite 9, 1 à 15. Alors, on va écouter ensemble la parole de Dieu, si vous le voulez bien.
Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé.
Chapitre 9, versets 1 à 15. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi pour satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. On va prier ensemble. Père éternel, nous sommes assemblés ce matin pour entendre le message de ta parole. Nous sommes assemblés, Père, pour que ton esprit vienne parler à nos cœurs. Seigneur, tu es un Dieu saint, un Dieu d'amour qui est venu t'offrir sur cette croix pour nous. Seigneur, tu as pris des êtres pauvres spirituellement et tu as fait de nous les plus riches des hommes et des femmes, nous préparant une place au ciel. Mais Seigneur, nos cœurs sont souvent attachés à cette vie ici-bas. Nous détournons le regard, Seigneur, de ton trône et nous n'avons pas les yeux fixés sur toi comme Étienne les avait lorsqu'il a eu cette vision, te voyant debout à la droite de Dieu. Alors, Père, ce matin, viens nous parler par ton Esprit Saint. Aide-nous à relever la tête. Aide-nous à nous attacher aux choses d'en haut, afin que nous entrions dans la joie, dans le repos qu'il y a en toi, Seigneur. Déchargés des fardeaux de ce monde, que nous expérimentions, Seigneur, ton joug à toi, qui est doux et léger. Seigneur, nous nous sommes penchés sur ta parole à travers cette série qui se termine ce matin. Nous t'avons demandé de nous bouleverser, de nous parler, Seigneur. Nous avons regardé comment toi tu as vécu ici-bas, afin d'être inspirés à notre tour. Viens, Seigneur, achever ce travail dans nos cœurs ce matin. Que tout ce qui a été dit, que tout ce qui a été vu, que tout ce qui a été lu, Seigneur, ne soit pas en vain. Mais que nous l'appliquions, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cœurs. Et que cette Église grandisse à ton image, Jésus-Christ. Père, j'aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui sont retenus à la maison par la maladie. On pense à cette grippe, Seigneur, qui sévit. Sois avec tous ceux et celles qui sont malades, qui sont retenus à la maison. Mets ta main sur leur santé, bon Père. Protège-les. On veut penser à tous ceux et celles dans l'Église qui travaillent dans le milieu hospitalier, dans les soins de la santé. Seigneur, fortifie-les. Beaucoup de pression est mise sur eux actuellement, beaucoup de critiques, beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. Seigneur, fortifie-les. Ouvre-leur des portes afin qu'ils puissent parler de toi, Seigneur, alors que plusieurs vivent de l'inquiétude. Sers-toi, Seigneur, de ces moments où les gens prennent conscience de leur fragilité devant la vie pour donner des occasions, des opportunités d'annoncer Christ dans nos familles. Et Seigneur, que notre attachement au ciel vienne faire une différence dans notre attitude dans ces circonstances. Seigneur, nous ne savons pas si le mieux est de rester ici-bas ou d'aller te rejoindre. Parce que nous voulons gagner encore nos familles à Christ. Nous voulons voir nos enfants marcher pour toi. Mais nous savons, Seigneur, que personnellement, le meilleur serait déjà de partir aller te rejoindre. Viens nous aider à vivre ces vérités, Seigneur. Je prie d'être avec ma bouche ce matin, avec mon cœur. Viens, Seigneur, te glorifier, que rien ne soit dit de cette chair qui ne vienne pas honorer ton nom, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Randy Alcorn, que j'ai cité la semaine dernière, a écrit plusieurs livres, dont The Treasure Principle, où il essaie de développer toute cette idée qu'on doit avoir un trésor au ciel, non sur la terre. Randy Alcorn a dit, le plus grand obstacle à donner est l'illusion que la terre est notre maison. Notre plus grand obstacle à être capable de donner, c'est l'illusion que la terre est notre maison. Amen. Combien ici sont pris avec cette illusion? Chers amis, ma prière, c'est qu'à travers cette série qui se termine cette semaine, que l'Église de l'espoir ait grandi un peu à l'image de Christ. C'est ça ma prière. Au cours des trois dernières semaines, on a vu que les biens matériels, c'est une bénédiction de Dieu, une extraordinaire bénédiction de Dieu. Et on a vu qu'un jour, Dieu créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est normal que nous apprécions les biens matériels. Nous ne sommes pas des êtres immatériels. Pas du tout. Et un jour, nous vivrons sur une nouvelle terre et nous savourons encore ses bienfaits. Donc, on a vu que c'était une bénédiction de Dieu, mais aussi que nous avons des décisions très claires à prendre pour qu'elle le demeure une bénédiction. Il y a des choix à faire individuellement, en couple, en foyer, dans nos cœurs, pour nous assurer que ce qui est une bénédiction demeure une bénédiction. Si nous ne voulons pas que les biens matériels deviennent une idole dans notre vie, si nous ne voulons pas suivre la foule et être emportés par la séduction des richesses, nous avons des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Autrement, notre cœur poursuivra sa tendance naturelle. Et ce qui est une bénédiction deviendra une idole dans notre vie. Premièrement, mes finances seront orientées sur le royaume des cieux. On l'a chanté à travers plusieurs des chants ce matin. Mes finances seront orientées sur le royaume des cieux plutôt que sur un royaume terrestre. Tes finances sont-elles actuellement orientées sur un royaume sur la terre? Tes proches, tes amis, tes enfants ont-ils l'impression que tu t'installes ici pour l'éternité ou que tu es un pèlerin ici-bas? Décider de prendre le royaume des cieux comme orientation de mes finances viendra me guider dans bien des choix. Je vais choisir de m'amasser un trésor au ciel plutôt que sur la terre. Je vais pouvoir enfin grandir dans mon contentement. Apprendre à être heureux avec moins plutôt que toujours avec plus. C'est à contre-courant, ça, les amis. Ensuite, je vais chercher à grandir dans ma générosité. J'apprends à voir ma prospérité comme une occasion d'être plus généreux, d'investir mon argent dans le royaume des cieux, en soutenant mon Église, la mission aussi, en pourvoyant aux besoins des gens qui sont dans le besoin autour de moi. Et Dieu sait qu'il y en a sur la terre des besoins. Ainsi, je mets mon cœur à l'abri de la séduction des richesses en choisissant d'orienter mes finances sur le royaume des cieux. Est-ce que tes finances sont orientées par le royaume des cieux ou par un royaume terrestre? Et en faisant tout cela, je grandis à la ressemblance de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus se bâtissait un royaume sur la terre? Si c'est le cas, il ne savait pas comment s'y prendre, je peux vous le dire. Il voyageait comme un pèlerin, sachant que son royaume s'en venait par la suite. Je ressemble à Jésus-Christ, mon Seigneur, qui s'est dépouillé lui-même afin que nous soyons enrichis. Il est notre véritable motivation. J'espère que ça s'est sorti à vos yeux, à votre cœur, à travers la série. Notre véritable motivation en toute chose, c'est Christ. Parce que nous voulons lui ressembler. 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Paul cite cela, enseigne cela dans un contexte où il parle d'argent. Christ est toujours notre motivation. Lorsque ce n'est pas pour ressembler à Jésus-Christ en réponse à son amour que nous faisons quoi que ce soit, nous le faisons par religion. Nous devenons des êtres religieux, des pharisiens. Mais lorsque Christ est notre motivation, c'est sa grâce qui s'opère en nous. Nous grandissons en réponse à l'amour de Jésus-Christ. Alors ce matin, je veux répondre à une dernière question. Et comme on dit en anglais, c'est vraiment là où « the rubber meets the road ». Ça devient très, très, très concret. Je veux répondre à une dernière question et vous allez voir, c'est intimement lié à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. La question, c'est « combien doit-on donner ?» Qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne sur la portion ou le montant que nous devrions donner? Et c'est sûr qu'il y a du monde qui sont mal à l'aise, là. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, faites attention. Parce que vous allez vraiment me prendre pour un Jesus freak, je vous le garantis. C'est une question pratique quand même. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, tout le reste, c'est de la théorie. J'appartiens entièrement à Jésus-Christ, je donne 50 $ par année au Seigneur. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, tout le reste, c'est de la théorie. C'est comme dire que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il a transformé ma vie et continué une vie semblable à celle d'avant. Ce n'est que de la théorie. Alors, la question est importante. Si je veux attacher mon cœur au royaume des cieux, combien est-ce que je vais chercher à donner? Alors, c'est certain, si vous connaissez assez bien la parole de Dieu, si vous la connaissez un peu, la question qui est derrière ça, c'est toute la question de la dîme. Et malheureusement, je suis assez d'accord avec Craig Blomberg. Dans son livre « Revolution in Generosity », voici ce qu'il écrit. « Il est triste de constater que trop souvent les discussions concernant la dîme distraient les chrétiens de leur vraie responsabilité. » Et je pense que c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné, il est vrai, des directives très claires à savoir combien une famille qui voulait marcher avec Dieu devait donner. C'est clair dans l'Ancien Testament. La ligne est très claire. T'aimes Dieu, tu es un juif qui veut marcher avec Dieu, tu sais combien tu dois donner. C'est clair dans l'Ancien Testament. On parlait tout d'abord de la dîme qui signifie 10 %. C'est ça que ça signifie le mot dîme. Mais il y avait aussi une dîme biannuelle puis une dîme triannuelle. Et quand on considère tout ça puis on met tout ça ensemble, ça nous amène à un joyeux chiffre de 23 1/3 % par année à peu près. Donc, c'était assez clair dans l'Ancien Testament. Tu lisais la loi, tu décortiquais ça, tu mettais ça en pratique et voilà où tu aboutissais. Donc, d'une part, aujourd'hui, il y a bien des chrétiens qui ne réalisent pas que lorsqu'on parle de dîme, on parle de 10 %. Ce n'est pas juste dans l'Église catholique qu'il y a cette confusion-là. Vous savez ce que c'est la dîme dans l'Église catholique? Malheureusement, j'ai déposé ma dîme tantôt, j'avais 25 sous. Je l'ai mis là-bas. Ça, c'est la dîme. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire 10 %. Alors, il y a bien des chrétiens qui ne savent pas ça, qui ne le réalisent pas. On parle de 10 % minimum. Mais d'autre part, il nous faut reconnaître que l'accent du Nouveau Testament n'est pas sur la dîme. Jésus en parle une fois, lorsqu'il est en train d'enseigner les pharisiens, et il dit « c'est très bien de donner la dîme », mais en même temps, il prend cette action-là, ce geste-là, pour mettre en garde. Il dit « il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'on donne la dîme pour se donner bonne conscience et négliger notre passion pour Dieu et notre amour pour les hommes. » C'est la seule fois où Jésus parle de la dîme, littéralement, directement. Il dit « c'est bien de faire ça, négligez pas ça, mais il met en garde. » Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une opportunité de juste de se donner bonne conscience et de négliger le cœur de la foi, le cœur de la vraie religion qui est celle d'avoir une passion pour Dieu et un amour pour les hommes. Et dans le reste du Nouveau Testament, les apôtres ne parlent pas de la dîme. Les apôtres n'enseignent pas sur la dîme. Ils abordent la question sous un autre angle, tout comme Jésus d'ailleurs, parce que Jésus parle énormément de la dîme, d'argent, très peu de la dîme. Alors, les apôtres font comme lui. L'accent du Nouveau Testament n'est pas sur 10 %, écoutez bien ceci, mais plutôt sur le fait de donner avec joie, avec foi et avec sacrifice. Et si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, vous le voyez déjà lorsque je le résume ainsi. L'accent du Nouveau Testament n'est pas sur 10 % sur la dîme, mais plutôt sur le fait de donner avec joie, avec foi et avec sacrifice. Voyez-vous, donner pour le royaume des cieux, c'est une grâce. C'est ça qui nous est enseigné dans le Nouveau Testament. Avoir l'opportunité de donner pour l'avancement du royaume, c'est une grâce. Donner pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, c'est une grâce qui m'est faite. Et lorsqu'un enfant de Dieu décide de donner avec sacrifice, par la foi, avec joie, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans sa vie. Et c'est dans cet esprit-là qu'on le voit constamment dans le Nouveau Testament. Quand un enfant de Dieu décide de donner pour pourvoir pour l'avancement du royaume, que ce soit l'Église, la mission, des gens qui sont dans le besoin, un frère qui est dans le besoin, lorsqu'il décide de le faire avec joie et avec foi et de manière sacrificielle, c'est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester dans sa vie. Et plus je grandis dans la grâce de Dieu, plus je serai généreux, plus je prendrai plaisir à être généreux pour l'œuvre de Dieu, plus je ressemble à Jésus-Christ, plus j'apprends à ajuster mon style de vie, comme on l'a vu dans les dernières semaines, et ma générosité s'ajuste aux priorités du royaume. Plus je grandis dans mon contentement et dans mon attachement aux choses d'en haut, et plus cela se reflète dans mes offrandes, dans ma dîme, dans mes dons, dans mon aumône, plus je grandis, plus ça devient apparent. On l'a dit à travers les dernières semaines, j'ai essayé de répéter cette phrase afin que ça puisse prendre place dans nos cœurs et dans notre esprit. Apprendre à gérer ses finances et ses biens personnels avec sagesse et générosité fait partie du processus de transformation du cœur pour ressembler de plus en plus à Christ. Martin Luther a dit qu'il y avait trois conversions. L'esprit, le cœur et le porte-monnaie. Apprendre à gérer ses finances et ses biens personnels avec sagesse et générosité fait partie du processus de transformation du cœur pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Nous voulons grandir dans ce domaine-là aussi, parce que nous lui appartenons entièrement. Amen? Entièrement. Regardez ce que Paul dit au verset 1. C'est ça qui est en train de se passer dans les églises de la Macédoine. 2 Corinthiens 8:1. Ils étaient en train de grandir dans la grâce à l'image de Christ. Verset 1, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Tout ce que Paul va décrire par la suite dans les versets qui suivent, ce sont des manifestations d'une opération de la grâce dans le cœur des chrétiens de la Macédoine. Tout ce que Paul décrit après, ce sont des fruits de l'esprit, c'est une transformation du cœur où les chrétiens de cette région-là commencent à ressembler de plus en plus à Christ. C'est la grâce transformatrice de Christ dans leur vie qui va produire ce qui suit. C'est l'œuvre de Dieu dans leur cœur qui a produit cette belle générosité. Ils ont grandi dans la grâce et sont devenus des hommes et des femmes généreux. Verset 2, Paul poursuit en disant, « Au milieu de beaucoup de tribulations ou d'épreuves, selon votre version, de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Qu'est-ce qui a produit de grande générosité? Deux choses, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Ces gens-là étaient beaucoup plus pauvres que les chrétiens des églises de la région de Corinthe, de la ville de Corinthe. Mais leur joie débordante, parce qu'ils ont été saisis par Christ, accompagnée de leur pauvreté profonde, qu'est-ce que ça a donné? De riches libéralité, une grande générosité. Je continue verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Est-ce que vous voyez la révolution de pensée qu'il y a ici? Voyez-vous le bouleversement dans leur manière de voir les choses ici? C'est une grâce. Ils ont insisté pour participer à cette grâce de pouvoir donner non seulement selon leurs moyens, mais au-delà de leurs moyens. Ces gens-là ont rencontré Jésus-Christ et ils ont été bouleversés par un être divin qui est venu sur la terre mourir sur la croix pour leurs péchés. Cela a révolutionné leur manière de voir les choses. Et ils auraient été attristés de ne pas participer à cette grâce. Il y a un bouleversement intérieur profond. Ces gens-là sont des fous de Dieu. Ce sont des Jesus freaks. Voyez-vous, ses frères et sœurs, les Macédoniens, n'étaient pas riches comparativement aux Corinthiens. Paul parle de leur pauvreté profonde et pourtant ils étaient riches en Dieu. Et lorsqu'on lit tout le passage, plus riches que les Corinthiens. Riches en bonnes œuvres, en générosité à cause de la grâce de Dieu qui se manifestait dans leur vie. Dans la manière dont les Macédoniens ont donné, on trouve les trois éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure qui caractérisent qu'est-ce que c'est donné dans le Nouveau Testament. La joie, le sacrifice et la foi. Les trois sont là. Ces gens étaient tellement attachés au royaume de Dieu qu'ils considéraient comme une grâce de donner, non seulement selon leurs moyens, mais même au-delà de leurs moyens. Ça, c'est donné avec joie. Il n'y a pas de contrainte. Mais voyez-vous, le fait de donner sans contrainte n'était pas l'opportunité d'être chiche. Au contraire, c'était l'opportunité d'être riche en Dieu. Il n'y en avait pas de contrainte. Ils l'ont fait de bon cœur, avec joie. Ils ont supplié d'avoir l'opportunité de donner. Ça, c'est de la joie. Quand tu considères que c'est une grâce de pouvoir donner généreusement, il y a de la joie là-dedans, mes amis. Il n'y a aucune contrainte dans ça. Et honnêtement, c'est la seule bonne manière de donner. Tout le reste est de la religion. Si tu ne donnes pas comme ça, c'est de la religion. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. C'est la seule bonne manière de donner. Avec joie, vu comme une grâce de pouvoir participer à l'avancement du royaume, de m'investir. Autrement, on le fait par orgueil, pour se mettre en règle, pour être kosher. Mais ici, il y a de la joie, et ici, il y a de la foi. Il y a de la foi parce que Paul nous dit qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ça prend de la foi, ça. Ça affecte un budget quand tu donnes au-dessus de tes moyens, n'est-ce pas? On rentre dans l'incertain, on s'avance un pas dans l'invisible. On s'avance vers Dieu. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Quand tu donnes avec joie au-delà de tes moyens, c'est parce que tu as la foi que Dieu va s'occuper de toi. Alors, tu es en train de vivre Matthieu 6, 33. Écoutez, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On est dans le sermon sur la montagne. Les Macédoniens étaient en train de vivre le sermon sur la montagne. Vous savez ce passage où Jésus a de l'air complètement flyé? Où tu te dis, mais ça ne se peut pas, Jésus parlait toujours en exagération. Il ne peut pas nous demander de faire ça. Mais les Macédoniens sont en train de le faire. C'est exactement ça qu'ils font. Ils sont en train de vivre à ce moment-là le sermon sur la montagne. La plus pure religion que tu peux concevoir, le sermon sur la montagne, les Macédoniens le vivent ici. Voyez-vous, Paul donne les Macédoniens comme exemple aux Corinthiens. Ceux qui sont des modèles, ce sont ceux qui donnent avec joie, avec foi, avec sacrifice. Et pensez-y, si vous êtes familier un peu avec le Nouveau Testament, généralement, ceux qui sont donnés comme modèles dans le Nouveau Testament, ce sont des gens qui donnent avec joie, avec foi, avec sacrifice. Pensons à la pauvre veuve dans Marc 12. Et je vous l'ai dit, je trouve que Jésus est snoro à ce moment-là. Ah, n'est-ce pas? On est au temple, puis il y a un tronc, puis là, les gens vont donner, puis mon Jésus, il est là, puis il est installé. Le même Jésus qui va dire, faut pas que tu saches que ta main gauche donne, faut pas que ta main droite sache que ta main gauche est en train de donner, lui, il est là, puis il est en train de regarder ce qui se passe au tronc. Il est snoro, là. Et puis là, il y a des riches qui viennent, puis ils donnent des beaux montants. Tu sais, quand ils déposent, ça fait clac, 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 clac. Puis il y a une vieille veuve qui vient, puis elle sort quelque chose qui est comme un quart de sou, tu sais, deux petites pièces de monnaie, quand les dépôts sont tellement légères que tu ne les entends même pas. Elles flottent à la surface, portées par l'air. Je veux dire, tu ne peux rien acheter avec ça. Jésus la regarde aller, et cette dame-là a donné tout ce qu'elle possédait. Puis Jésus dit, « Wow, les gars, ça, c'était hot! » Vous voyez la petite vieille qui s'en va là-bas, là? Elle a donné tout ce qu'elle avait, Tous les riches qui sont venus avant, ils ont donné de leur superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Ça, c'est de l'adoration, les gars. On ne parle pas de 10% ici, là. Êtes-vous d'accord avec moi? Je veux dire, la dîme, là, à côté de ça, c'est cheap, hein, s'il vous plaît. On ne parle pas de 10% ici. On parle d'un cœur entier qui est donné, un pur acte d'adoration qui est vécu ici. Pensez à Barnabas dans le livre des Actes. Barnabas était un homme de Dieu. À Jérusalem, il y avait bien des chrétiens qui étaient pauvres. Il a été bouleversé par ce que Christ a fait pour lui à la croix. Et puis Barnabas, dans Actes chapitre 4, vend un terrain qu'il possède, vient déposer le produit de la vente aux pieds des apôtres pour acheter de la nourriture pour les pauvres. Pas pour un bien durable, comme leur construire un hôpital qui s'appellerait « The Barnabas Hospital ». Tu sais? Ou bien investir dans des métiers pour que ces gens-là apprennent des nouveaux métiers puis leur donner de l'autonomie, de l'indépendance. Non, non, non. Il veut un terrain pour acheter de la nourriture. Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'il veut un terrain? En termes contemporains, ça veut dire que Barnabas est allé puiser dans son actif, dans son fonds de pension pour acheter de la nourriture pour les chrétiens pauvres. J'imagine qu'à cette époque-là, si tu avais un terrain, c'était à quelque part ton fonds de pension. C'était un actif que tu pouvais avoir besoin pour voir à tes besoins lorsque tu commençais à vieillir et tu n'étais pas capable de pourvoir toi-même à tes besoins. Barnabas s'en va vendre un terrain et puise dans son actif pour pourvoir pour de la nourriture. Ça ne dure pas longtemps, de la nourriture. On ne parle pas de la dîme ici, on parle de beaucoup plus que ça. On parle de beaucoup plus que ça. Est-ce que la pauvre veuve était sage ou insensée, dites-moi? Est-ce qu'elle était sage ou insensée? Est-ce que Barnabas était sage ou insensé? Laissez-moi le poser autrement. Est-ce que ça vous tenterait d'être marié avec un Barnabas? Ou d'avoir comme mère cette vieille veuve-là. Quand tu la croises le lendemain, elle n'a rien pour manger, c'est ta mère. Est-ce que ça vous tente que votre mari ou votre épouse arrive un soir après le travail puis ils disent « Chérie, j'ai lu ma Bible aujourd'hui puis j'ai entendu parler d'un besoin. Tu sais, notre chalet dans le Nord, ça me tenterait qu'on le vende parce qu'il y a des gens qui manquent de nourriture. » Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il est sage ou insensé? Moi, j'aimerais ça avoir une mère qui est comme cette vieille veuve. Parce que cette dame-là, lorsqu'elle témoigne à ses petits-enfants, laissez-moi vous dire qu'elle sait parler du royaume des cieux. Et par la grâce de Dieu, moi, je suis marié avec une Barnabas au féminin. C'est un grand privilège. Le cœur est fixé sur le royaume des cieux. Sage ou insensé, selon vous? La réponse qui est au fond de votre cœur vous dit si vos finances sont orientées sur le royaume des cieux ou sur un royaume sur la terre. La vraie conviction qui est au fond de votre cœur dévoile tout. Leur geste, je trouve, ressemble drôlement au parfum de grand prix que cette femme a versé sur la tête de Jésus. Vous ne trouvez pas? C'est un acte d'adoration qu'ils ont posé. C'est la seule vraie manière d'adorer Dieu. Ça peut être un quart de sou, ça peut être un terrain vendu. Ce n'est pas vraiment la quantité qui est déterminante. Et vous pouvez être assuré que leur trésor était au ciel. Leurs finances étaient orientées sur le royaume des cieux. Leur cœur était à l'abri de la séduction des richesses qui nous amènent dans toutes sortes de tourments. En fait, c'est simple, ces gens-là ressemblaient à Jésus-Christ. Dans le fond, il n'y a rien d'extraordinaire ici. C'est juste des personnes qui ressemblaient à Jésus. qui s'est dépouillé par amour pour son Père et par amour pour nous. Il ressemble à Jésus. Ce n'est pas extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est troublant, c'est que ça nous apparaisse extraordinaire. Mais ils ne font qu'un sacrifice raisonnable devant un être divin qui a quitté son ciel et qui est venu mourir sur une croix pour eux. C'est la réponse d'un cœur qui dit merci. C'est la réponse d'un cœur qui est amoureux. C'est, si vous voulez, en d'autres mots, ce qu'un homme qui tombe en amour avec une femme serait prêt à faire, monter sur le sommet du Mont-Royal pour crier « Cynthia, je t'aime! Esther, je t'aime! » Puis avoir de l'air complètement fou. C'est juste ça. Un cœur passionné. C'est juste ça. C'est un bel acte d'amour. Vous avez compris? Larry nous dit que son père a vendu sa Cadillac pour pouvoir payer ce qu'il fallait pour pouvoir se marier avec son épouse. Et ça ressemble à ça, ce que Dieu nous demande de faire. Lorsqu'on aime le Seigneur, on n'a peut-être pas une Cadillac à vendre, peut-être juste un quart de sous. C'est le même geste. C'est le même geste en réponse au Seigneur. C'est pour ça que je vous dis que dans le Nouveau Testament, c'est pas vraiment un accent sur la dîme qui est donnée, sur 10 % autant que le fait de donner avec joie, avec foi, avec sacrifice. Maintenant, comme il faut commencer quelque part, je pense que c'est sage de commencer avec la dîme. Je pense que c'est bien, je pense que c'est déjà une mesure de mon amour pour Christ, c'est déjà une mesure de mon engagement. Lorsqu'on regarde les exemples du Nouveau Testament et qu'on considère notre qualité de vie à nous aujourd'hui, bien honnêtement, je veux dire, oui, je pense que c'est bon de commencer là. Ces gens-là avaient une qualité de vie de loin inférieure à nous et ils étaient prêts à faire ça. Et donc, je pense que M. Mercier, lorsque je me suis converti et qu'il m'a donné le cours, le maître et son disciple, a bien fait de m'enseigner, dès le début de ma vie chrétienne, à donner ma dîme. Dans le cours, il m'a dit, « OK, Yannick, cette semaine, on parle du budget. » Il prend une feuille, il sort ça. Il dit, « OK, combien tu gagnes, Yannick? » Je gagne ça. » C'était M. Mercier. Hein? M. Mercier avait le droit de me dire n'importe quoi, je vous le garantis. Fait qu'il dit, « OK, je gagne ça. OK, Yannick, on va faire ton budget. C'est quoi tes dépenses que tu as à faire? » Je commence à lui dire, « Non, il ne dit pas ça. » On commençait par la dîme, première ligne en haut. Ça, c'est 10 %. Après, tu commences à faire ton budget. Oui, monsieur Mercier, pas de problème, monsieur Mercier. Jésus venait de me sauver, moi, je m'en allais en enfer. Si je ne pouvais pas faire ça pour lui, je n'étais pas prêt à rien faire pour lui. Ce n'est même pas une question. Et monsieur Mercier a bien fait de m'enseigner ça. Puis il dit, après ça, tu pourras donner, tu pourras aider des pauvres, tu pourras faire toutes sortes d'affaires si tu veux, mais commence par le début. Mais je pense aussi, à la lumière du Nouveau Testament, que plus on est riche, plus on devrait augmenter le pourcentage qu'on est en train de donner. C'est ce que Jésus a admiré chez cette vieille dame, voyez-vous. Donner avec foi et avec sacrifice ne veut pas dire la même chose quand tu gagnes 100 000 que lorsque tu gagnes 40 000, que lorsque tu gagnes 20 000. Ça ne veut pas dire la même chose. Et je sais, là, je suis en train de parler de chiffres. Je sais que je suis en train de mettre du monde mal à l'aise. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous dites, « Mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que je fais ici? » L'histoire de Jésus, son amour pour toi à la croix, et alors tu commenceras à comprendre de quoi on parle ici. Mes amis, je sais que je suis très concret, mais ce que je suis en train de faire en réalité, je suis en train de vous exposer 2 Corinthiens 8, 1 à 6. C'est ça que je suis en train de faire, et je suis en train de l'appliquer à notre époque, dans notre contexte. C'est ça, prêcher la parole de Dieu. Si je n'allais pas jusque-là, aussi concrètement que ça, je serais en train de rester dans la théorie, de vous flatter, de vous installer, puis de vous dire, vous êtes beau, vous êtes fin, vous êtes capable. Vous n'êtes pas obligé de changer. Mais si je vous prêche la parole, il va falloir qu'on voit jusqu'où ça va. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire pour de vrai? Ce matin, je vous présente ce que le Nouveau Testament enseigne sur la générosité comme un acte d'adoration. Foi, joie, sacrifice. Et une fois que j'ai saisi que l'accent du Nouveau Testament n'est pas sur la dîme ou sur 10 %, mais plutôt sur le fait de donner avec joie, avec foi et avec sacrifice, dans la même pensée que ce que Jésus a fait pour nous, alors Je peux commencer à grandir dans ma foi à l'égard des finances et des biens personnels. Voyez-vous, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je m'arrête. Je considère ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a confié, ce que Dieu m'a donné comme capacité à gagner de l'argent. Je regarde ce que je possède, je regarde ce que j'aimerais avoir, je regarde toutes ces choses-là et j'évalue ce qui serait un geste de foi et de sacrifice personnel que je suis prêt à faire avec joie. Je considère quels sont mes vrais besoins et je décide de faire un pas de foi en déterminant combien je vais donner au Seigneur cette année. Je fais un pas de foi parce que je veux voir Dieu pourvoir à mes besoins. Je veux le voir concrètement pourvoir à mes besoins. Et s'il n'y a pas de foi, tout est calculé, les amis. La seule fois que je sais que demain, je vais être encore en santé pour gagner autant d'argent que j'ai prévu. Il n'y a pas un grand pas dans l'invisible ici. Je veux dire, tous les inconvertis font ça. Ils croient que demain, ils vont être en santé. Ceux qui ne le font pas sont morts d'inquiétude. Mais tant qu'il n'y a pas un don qui est fait avec sacrifice par la foi, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Est-ce que Barnabas était sage ou insensé? La vieille veuve était-elle sage ou insensée? Jésus a-t-il été sage ou insensé en quittant son ciel pour vous et moi? Alors je m'arrête, je regarde ça et je regarde quel pas de foi je suis prêt à faire. Et l'an prochain, je ferai un autre pas de foi. Et ainsi, je vais découvrir d'année en année la fidélité de Dieu et la grâce de vivre pour le royaume des cieux plutôt que pour un royaume terrestre. Voyez-vous, concrètement, je vais grandir dans ma générosité en foi et en générosité d'année en année. Et plus je m'approche du ciel, plus je veux m'investir dans un royaume céleste et non terrestre. Laissez-moi vous donner des exemples contemporains, d'accord? Ça, c'était une autre époque. Laissez-moi vous donner des exemples aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Esther et moi, et vous allez comprendre pourquoi je veux nous donner un exemple. Esther et moi, essayons de donner l'exemple en donnant généreusement et avec joie. Et soyez assurés que lorsque nous donnons, nous le faisons avec joie, avec paix, sans aucune contrainte, avec beaucoup de liberté. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, dès le début de ma vie chrétienne, on m'a enseigné à commencer par ma dîme. 10%, c'est bon. Je savais déjà que ça ne m'empêchait pas de faire le monde, d'aider des gens qui étaient dans le besoin, des gens qui étaient pauvres, des gens qui auraient eu besoin d'un petit coup de main. Et au début de mon ministère, ici à l'Église de l'Espoir, là, 13-14 ans, certains d'entre vous vous rappellerez, mon salaire c'était 14 ou 17 000, je ne me souviens plus. Mais jamais on a remis en question nos engagements envers le Seigneur, de donner notre dîme et même d'être sensible pour faire le monde. Au contraire, c'était notre manière à nous de grandir dans la foi. C'était notre manière de dire à Dieu, « Seigneur, nous sommes fidèles, on veut te voir aller, Seigneur. » Et puis un jour, on a réalisé que 10% c'est cute. C'est cute 10%, mais ça ne représente pas l'esprit du Nouveau Testament de s'installer confortablement sur ce que je donne puis de me dire, regarde, moi, je suis rendu, maintenant, j'espère qu'ils vont faire leur part. Ça ne ressemble pas aux Macédoniens, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'esprit du Nouveau Testament. Alors, on a commencé à rêver ensemble, Esther et moi, de dire, oh, OK, des fois, on va pouvoir donner plus. Est-ce qu'on est capable d'augmenter? On veut mettre Dieu à l'épreuve. On veut le voir aller dans l'esprit du passage dans Malachie et on veut grandir dans ce sens-là. Et on a commencé tranquillement à augmenter, certaines années plus, certaines années moins. Si je vous partage ça, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous vanter, d'accord? Ce n'est pas pour nous vanter. Soyez assurés de cela. C'est simplement pour vous donner un exemple par nos vies, tout comme Barnabas est allé déposer le produit de la vente de son terrain aux pieds des apôtres. Il n'y a rien eu de caché dans le don que Barnabas a fait à ce moment-là. Tout le monde a pu voir ce que Barnabas a fait. Et tout comme Paul informait certaines églises qu'il n'acceptait aucun don financier de leur part. Il arrivait que Paul dise à une église, « J'accepte aucun soutien de votre part. » C'était assez connu, merci. C'était écrit dans une lettre qui circulait dans toutes les églises. On pouvait même dire, « Ah, cette église-là, on ne sait pas pourquoi, Paul ne veut pas d'argent d'eux. » C'était assez public, merci. Et je crois que les leaders sont appelés à être des modèles. Et je crois qu'il n'y a rien de plus pathétique qu'un leader dans l'Église qui dit, « Moi, ce que je donne au Seigneur, c'est mon temps, ce n'est pas mon argent. » Alors, si je prends le temps de vous dire ça, c'est pas pour me vanter, frères et sœurs. J'ai pas l'impression, j'ai pas le sentiment qu'Esther et moi, on fait rien d'extraordinaire dans ce qu'on donne. Je veux juste que vous sachiez, we walk the talk. Et ce qu'on présente devant vous, nous le vivons par la grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous parler de M. Keefe. Là, c'est excitant. M. Keefe, c'est pas tout le monde qui a connu son épouse. M. Keefe est encore vivant. Ernie, pour les intimes. M. Keefe, c'est un homme de Dieu, un des pasteurs implanteurs ici au Québec. M. Keefe, je ne sais pas, il est rendu à quel âge. Il doit approcher de son 80, d'après moi, maintenant. Son épouse est déjà allée rejoindre le Seigneur pour une plus belle noce, comme elle l'avait dit à son mari la veille de son départ. M. Keefe, à l'âge de 50 ans, bien, le séminaire de notre association, Sam Beck, est allé voir M. Keefe, puis ils ont dit, « Ernie, on aurait besoin qu'il y ait des gars au Québec qui aient faire une maîtrise, parce que les gens qui formaient à Sam Beck, les enseignants, avaient en général un bac en théologie. » Ils sont allés le voir, puis ils ont dit, « T'es un de nos profs, maintenant, ça nous prend des gars qui ont une maîtrise, parce qu'on veut que les gars aient plus loin dans la formation. » Alors, M. Keefe, qui n'avait pas de fonds de pension, comme la majorité des missionnaires à cette époque-là, s'est acheté un triplex. Et donc, il est en train de terminer de payer son triplex, qui devait être comme un bon chrétien sage, n'est-ce pas, un fonds de pension pour sa vieillesse. À 50 ans, a vendu son triplex et est parti faire ses études aux États-Unis avec le produit de la vente de son triplex, est revenu 3 ou 5 ans plus tard au Québec et a recommencé à bâtir son fonds de pension. Ouf, là, il commence à m'exciter. Ça commence à être plus Jesus freak, je trouve. Ça commence à m'exciter. Et vous savez quoi, M. Keefe vit assez bien dans une maison, très bien, parce qu'il a expérimenté que Dieu mettait à l'épreuve. Craig Blomberg, je l'ai cité tout à l'heure, si vous voulez lire un livre pour aller plus loin dans votre théologie, dans votre compréhension de tout ce que le Nouveau Testament enseigne sur les sous, et on considère de donner un cours basé sur ce livre-là, a écrit le livre « Ni pauvreté ni richesse ». Craig Blomberg a écrit ce livre-là, si je ne me trompe pas, en 1995, et puis après qu'il ait fait tout le survol de sa théologie du Nouveau Testament, à la fin, il dit, bon, on va aller dans l'application, les copains. Alors, il se donne un exemple. Lui, ses deux premiers pasteurs laissaient savoir discrètement de temps en temps à l'Église que ce qu'ils avaient à cœur, c'était de donner 25 %. Et encore une fois, pas pour se vanter, pour essayer d'inspirer les frères, comme dans l'Ancien Testament, on voit les responsables des tribus, les chefs des tribus qui viennent donner lorsqu'on bâtit le temple et puis lorsqu'on prépare le tabernacle et qui sont là pour donner l'exemple, pour inspirer. Alors, ces deux premiers pasteurs donnaient 25 %. Lorsque lui a écrit le livre, en 95, il donnait à cette époque-là avec son épouse 30 %. Il vivait dans une banlieue de Los Angeles, assez confortablement. Un beau petit quartier assez confortable. Maintenant, je suis tombé sur un autre livre auquel il a contribué, Revolution in Generosity, publié en 2005, celui-là, donc 10 ans plus tard, si je ne me trompe pas. À la fin, il fait exprès, il revient encore avec son exemple personnel. Et à ce moment-là, ça fait 4 ans qu'il donne 50 %. Est-ce qu'il est sage ou insensé? Et il prend le temps de dire qu'ils ne vivent pas dans la rue, dans une boîte de carton. Ils vivent en banlieue de Los Angeles, puis leurs enfants ont des cadeaux à Noël. Mais ils ont appris à grandir, à avancer dans leur foi, à mettre Dieu à l'épreuve et à grandir dans leur générosité. Ces gens-là s'amassent un trésor au ciel, frères et sœurs. Et donner est pour eux un acte d'adoration pur et simple. Et je ne pense pas qu'il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'on revient à l'Évangile, lorsqu'on revient à la croix et qu'on considère ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on ne pourra jamais le battre dans son offrande et dans son don. Je vais le dire de manière un petit peu bête et j'espère que je ne choquerai aucune oreille ici. C'est la seule place où j'accepte de faire du gambling. Parce que c'est le seul domaine où je suis certain que Dieu va toujours battre ma mise. J'ai eu le privilège qu'on me l'enseigne dès le début de ma vie chrétienne. J'ai eu le privilège de le voir incarné chez ma mère et mon beau-père. J'ai eu le privilège d'être placé sous le ministère d'hommes de Dieu qui m'ont mis au défi pour me stimuler. Mais j'ai surtout le privilège d'avoir rencontré Jésus-Christ. Et plus je m'approche de lui, plus j'ai le goût d'être fou pour Jésus. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit qu'on devrait donner? Ce n'est pas vraiment la question de la dîme. Je pense que c'est bon de commencer là. Pour plusieurs, c'est déjà un acte de sacrifice et de foi, je le sais. Alors, je pense que c'est bien de commencer là. Mais l'esprit du Nouveau Testament n'est pas sur la dîme, ce n'est pas vrai. L'esprit du Nouveau Testament, c'est sur un don qui est un acte de joie, de foi et de sacrifice. Voici le geste, le don d'un adorateur de Dieu. Et ma prière, frères et sœurs, c'est que cette Église grandisse en ce sens. Voyez-vous, si Dieu nous appelle à envoyer des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre, il faut qu'on arrête à un moment donné de se casser la tête avec un bâtiment ici. C'est vrai? Si Dieu nous appelle à atteindre Longueuil, il faut à un certain moment donné qu'on arrête de se casser la tête avec comment on va payer le pasteur ou les pasteurs. Alors concrètement, je ne peux pas être plus concret que ça. Je rêve que nous grandissions pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, que nos porte-monnaies soient convertis et que nous soyons dans la joie de nous investir dans le royaume. Et vous savez quoi? Il va y avoir plus de joie et de sourire sur nos visages lorsque nous allons chanter des louanges le dimanche matin. Il va y avoir plus de paix dans vos foyers et dans vos cœurs. Et lorsque vous allez retourner au travail, vous allez regarder les gens autour de vous, pris dans une folie pure et nette, vous allez rentrer dans les centres d'achat avec un petit sourire sur le coin des lèvres en disant « Merci Seigneur, merci Seigneur. Je m'en viens juste chercher ce qui est nécessaire. Je ne m'en viens pas adorer dans mon temple. » Et par la grâce de Dieu, on peut y arriver, frères et sœurs. La semaine prochaine, on va vous faire une annonce sur un cours qui s'en vient en janvier. Ça a été développé par Crown Ministry. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont pris avec des dettes, avec une mauvaise gestion financière, et être placé sous le ministère de la prédication de la parole à travers les 4 dernières semaines, ça a été quelque chose de lourd à entendre parce que vous dites, « Yannick, si tu savais seulement l'état de mes finances, tu ne me parlerais pas comme ça. » Je suis conscient de ça, je comprends ça, frère et sœur. Et on va avoir un cours qui va commencer en janvier dans le cadre des cours de 9 à 10 et qui va demeurer là par la grâce de Dieu toujours, afin qu'on puisse apprendre aussi à mettre de l'ordre dans nos finances de manière pratique selon les Écritures. Ça va être une ressource pour vous accompagner. Tout à l'heure, après les chants, s'il y en a d'entre vous qui désireriez qu'un ancien prie avec vous, exceptionnellement, je ne serai pas à la porte là-bas. Avec quelques frères, et je pense des sœurs, on va être derrière, ici, la salle, juste là. Si vous voulez qu'on prie avec vous quelques minutes, vous avez un fardeau sur votre cœur, venez prier avec nous. Dans la salle qui est sur ma droite, ici, Jeunesse Boomerang, il va y avoir Stéphane Rondeau, je pense un autre frère qui va être là aussi, André Hilly. Si vous avez des questions pratiques, une question simple, pratique, où vous dites, c'est beau, j'ai tout ça sur mon cœur maintenant, par où je commence? Je ne sais pas, n'importe quoi. Une question pratique d'ordre financier, allez voir Stéphane Rondeau, le trésorier de l'Église, André Hilly qui travaille sur le comité des finances, ils vont pouvoir répondre à une petite question pratique. Si vous voulez qu'on prie avec vous, venez ici voir les anciens, les membres du conseil, on va prier avec vous, des gens qui vont pouvoir aller dans la prière avec vous si vous avez un fardeau sur votre cœur. Frères et sœurs, je ne viens pas déposer tout ça sur vos épaules comme un fardeau, mais comme un rêve. Un rêve que nous grandissions à l'image de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Je ne l'apporte pas avec découragement. Je sais que Dieu va le faire. Pas parce que vous êtes beau, vous êtes fin et vous êtes intelligent. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Il a donné sa parole qui nous amènerait à son image, à sa stature. Il va le faire. Avançons ensemble et par la foi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, viens transformer notre manière de gérer l'argent. Afin, Seigneur, que nous voyions nos sous, nos finances et nos biens matériels comme l'opportunité de t'adorer. Comme une occasion de poser des actes d'adoration, Seigneur. comme des occasions de s'investir dans le royaume, comme des occasions de t'adorer au quotidien dans notre manière de faire nos transactions bancaires, dans notre manière de nous rendre au travail, dans nos ambitions, dans nos rêves, Seigneur. Oui, Seigneur, que ces bonnes choses que tu as créées ne prennent pas plus de place qu'elles sont censées en prendre. Qu'elles ne soient pas des idoles dans nos vies, mais des bénédictions et des occasions de bénir à notre tour, Seigneur. Viens nous transformer à l'image de la stature parfaite de Christ. Afin, Seigneur, que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, libres des courants de ce monde, remplis d'espoir, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Sois béni, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais déjà, pour tous les témoignages que j'ai reçus dans les dernières semaines, tellement encourageants, Seigneur. Nous voulons être fous de toi, Seigneur. Peu nous importe que le monde considère tout ce que nous faisons comme de la folie, nous pourrons, Seigneur, en gagner quelques-uns à Christ en vivant l'Évangile entièrement. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vais laisser la parole maintenant à Stéphane.